France Inter, il est 7h.
France Inter. Nicolas Desmorand. Le 7-9.
Jeudi 24 janvier, bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, un nouveau tandem à la tête de Renault. Le conseil d'administration du constructeur automobile français s'apprête à introniser Jean-Dominique Sénard et Thierry Bolloré. Portrait, Agnès, dès le début du journal, après les autres titres.
Deux présidents pour un seul pays, le Venezuela, où le chef du Parlement s'est autoproclamé président par intérim face à Nicolas Maduro. La troisième étape du grand débat mené par Emmanuel Macron est cette proposition des Gilets jaunes que nous allons analyser. Faut-il supprimer le Sénat ? La grève aujourd'hui dans les collèges et les lycées. Et puis quand la cheville de Neymar devient le centre du monde.
Les invités de France Inter ce matin. Bonjour Alexandra Ben Saïd.
Bonjour Nicolas.
7h50.
Est-ce qu'on gagne plus au chômage qu'en travaillant ? Est-ce qu'il suffit de traverser la rue pour trouver du boulot ? Est-ce que Pôle emploi peut faire mieux ? Son directeur général Jean Bassère est notre invité.
A tout à l'heure Alexandra. À 8h20, l'impossible union de la gauche dans la perspective des élections européennes. On va en parler ce matin avec Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Il est l'invité du grand entretien de la matinale. Vous pourrez dialoguer avec lui. Appelez-nous dès maintenant. 01 45 24 7000.
France Inter.
Voilà 14 ans qu'il régnait seul sur la destinée de Renault. Dans quelques heures, Carlos Ghosn ne sera plus le président du groupe aux Losanges. Il devrait remettre sa démission aujourd'hui par l'intermédiaire de ses avocats au Japon. Et c'est à Boulogne-Billancourt, au siège de Renault, que la page se tourne définitivement ce matin. Thierry Bolloré, qui assure l'intérim depuis l'arrestation de Carlos Ghosn, devrait devenir directeur général. Et c'est Jean-Dominique Sénard qui s'apprête à endosser le costume de président. À 66 ans, il est actuellement le PDG de Michelin, portrait signé Maxime Debs.
C'était il y a un an et demi et le discours est quasi prémonitoire.
Nous entrons dans une période d'une forme de contestation, d'une forme de capitalisme débridé. Le monde entier nous regarde. Merci beaucoup pour votre attention.
En 2017, devant un parterre de patrons, Jean-Dominique Sénard est alors candidat à la présidence du MEDEF. Il doit renoncer quelques semaines plus tard. La raison, son âge, 65 ans. En privé, l'homme en plaisante aujourd'hui. S'il peut encore servir, alors tant mieux. Réputé plus social que la moyenne, on vante sa patte de velours souvent. Mais l'homme s'est aussi tranché, comme en 2013, où il assume la suppression de plus de 700 postes sur le site Michelin de Jouer-les-Tours.
Je vous le dis, des usines de petite taille ne peuvent plus être compétitives en France. Aujourd'hui, ça n'est pas possible.
Avec lui, chaque suppression de poste doit toutefois être justifiée, lui reconnaît un syndicaliste. À chaque fois qu'il a voulu contester un licenciement, Patrick Beauvolenta, délégué du personnel chez Michelin, a pu s'en expliquer en tête-à-tête avec un patron dont il vante l'humilité.
Vous le croisez au self, il est comme tout le monde, il porte son plateau pour le tri des déchets, il passe à côté de vous. Ouais, bonjour Monsieur Beauvolenta, on boit un petit café ensemble. Et puis voilà, c'est parti. Et puis vous vous retrouvez dans son bureau. Ah, c'est vrai que c'est pas du tout la même personne, hein. Que Carlos Ghosn, c'est sûr.
Fils de diplomate, Jean-Dominique Sénard a sans doute de qui tenir. Sur le papier, pour beaucoup en tout cas, il est le remplaçant parfait, l'Antigone par excellence.
Et si les chiffres de Renault sont bons, 3 900 000 véhicules vendus l'an dernier, les résultats sont à consolider, tout comme l'alliance avec Nissan et Mitsubishi. Rassurer les partenaires japonais sera l'une des principales missions de ce nouveau tandem.
Il est 7h04, Agnès, direction le Venezuela à présent, où le leader de l'opposition s'est autoproclamé hier président par intérim.
Juan Guaido, 35 ans, élu à la tête du Parlement, immédiatement reconnu par Donald Trump et par les principaux pays de la région, mais pas par l'armée, qui continue de soutenir le président socialiste Nicolas Maduro. Situation ubuesque d'un pays à deux présidents, d'où le climat tendu hier dans les rues de Caracas où des dizaines de milliers de personnes ont manifesté. Benjamin Delisle est à Caracas pour France Inter.
Il est environ 17h à Caracas. Plusieurs milliers de personnes sont encore dans les rues pour manifester leur soutien à Juan Guaido. Carlos était à côté de la scène lorsque l'opposant s'est autoproclamé président par intérim.
C'était fabuleux. Nous avons enfin un leader pour aller de l'avant et en finir avec ces dictateurs.
Qu'importe d'ailleurs les menaces proférées par Nicolas Maduro qui accuse l'opposant de vouloir faire un coup d'État avec le soutien de Washington.
Il peut dire ce qu'il veut, il est illégal, illégitime, il n'a plus rien à dire. Le président maintenant, c'est Guaido.
Sauf que l'armée, ciment du régime, a refusé de reconnaître Juan Guaido. Et cela pourrait d'ailleurs entraîner l'arrestation du président de l'Assemblée nationale. Mais pour Arturo, 53 ans, ils n'ont pas intérêt.
S'il l'arrête, je pense que ça va entraîner une grave crise sociale, très grave.
Il salue d'ailleurs le soutien international envers son nouveau président.
Ils sont dans le droit chemin, dans le respect de la constitution et des lois vénézuéliennes.
À ses côtés, Ernesto a le sentiment d'avoir assisté à une proclamation historique.
Il ouvre une nouvelle ère. Il a montré qu'il était le représentant constitutionnel et légal du peuple, le président légitime.
Il existe désormais deux présidents de la République au Venezuela et ni l'un ni l'autre ne semble prêt à renoncer à ce titre. Caracas, Benjamin Delisle, France Inter.
Et de son côté, l'Union européenne appelle Nicolas Maduro à écouter la voix du peuple et demande l'organisation d'élections libres et crédibles. Aux États-Unis, Donald Trump repousse inédit son discours sur l'état de l'Union, nouveau signe de la paralysie politique à Washington. « Je ferai le discours quand le shutdown sera fini », vient de tweeter le président américain. Retour en France avec la troisième étape aujourd'hui du grand débat national pour Emmanuel Macron, entendu dans la Drôme, après un tête-à-tête inédit entre le chef de l'État et Laurent Wauquiez, le patron des Républicains, et à la tête également de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Un déjeuner-débat réunira une soixantaine d'élus à Valence. Des débats, on en compte chaque jour des dizaines dans tout le pays. Un millier d'événements recensés sur le site web du Grand Débat. Et parmi les questions, les propositions évoquées régulièrement par les Gilets jaunes, celle de l'utilité du Sénat. Alors Maxence Lambrec, on s'arrête avec vous sur le coût et le rôle des 348 sénatrices et sénateurs.
5 euros par an et par Français. Voilà le coût du Sénat, ça correspond à 0,001% du budget de l'État. Rien à voir avec l'enveloppe d'un ministère et 40% moins coûteux que l'Assemblée. L'économie serait donc vite engloutie. Et si l'on supprimait le Sénat, le président aurait encore plus de pouvoir. La réforme de la Constitution serait quasiment une formalité. Les collectivités locales n'auraient plus de relais à Paris. L'affaire Benalla n'aurait pas eu cette ampleur. Les sénateurs ne cessent de faire entendre leur petite musique, mais la plupart se moquent des micros et des caméras. Leurs amendements n'ont rien de spectaculaire, mais dans l'ombre, en commission mixte paritaire notamment, ils font bouger le gouvernement. Le problème, c'est que le seul chiffre dont on dispose est catastrophique. Seules 4 propositions de loi sénatoriales ont été adoptées l'an dernier, et le mode de scrutin interroge aussi. Qui sont ces élus locaux qui choisissent leurs sénateurs ? Eux-mêmes reconnaissent qu'il faudra demain au moins élargir ce corps électoral limité aujourd'hui à 162 000 personnes.
À l'heure du grand débat, à quoi sert le Sénat ? C'est à lire aussi sur franceinter.fr. La polémique sur l'utilisation des lanceurs de balles de défense, c'est cet après-midi que le juge administratif saisi par la CGT et la Ligue des droits de l'homme examinera leur requête déposée en urgence demandant au ministre de l'Intérieur et au préfet de police de cesser d'utiliser ce type d'arme qualifié de dangereuse et qui cause des dommages irréversibles. En bref, encore la confiance en berne des Français envers les médias, c'est le baromètre annuel du quotidien La Croix. En un an, la télé perd 10 points de confiance et la radio 6 points. Le détail dans le journal de 7h30.
Il est 7h08 et les Français ont-ils confiance en leurs enseignants ?
70% les jugent compétents, 64% estiment qu'ils ne sont pas assez considérés socialement. Résultat d'un sondage au Doxa Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro. Des enseignants donc soutenus par les parents, mais des enseignants en colère contre la réforme du lycée qui se met en place en ce moment et qui suscite beaucoup d'inquiétudes contre les suppressions de postes à la rentrée prochaine. D'où une journée de grève aujourd'hui qui s'annonce suivie dans ce collège parisien où tous les enseignants sont mobilisés. Sonia Princé.
Les établissements découvrent en ce moment ce que l'on appelle la dotation horaire globale pour la rentrée prochaine, c'est-à-dire le nombre d'heures accordées par le rectorat pour tous les enseignements. Des heures en baisse en raison des suppressions de postes. Guillaume est professeur à Paris dans un collège en éducation prioritaire.
Les DHG sont en baisse, c'est-à-dire les moyens qui nous sont accordés par le rectorat pour gérer finalement les emplois du temps, les heures de cours, les soutiens, tous les projets qui peuvent être mis en place sur l'année, le fait d'avoir des cours en demi-groupe. Donc tout ça est quand même largement amputé. Finalement, on se retrouve à devoir faire des choix entre matières. Quel prof va garder les demi-groupes ? Est-ce que les maths vont pouvoir rester en demi-groupe ? Est-ce que c'est le français ? Enfin, ça fait quand même finalement une sorte de compétition un petit peu de savoir où les heures en moins vont être un peu prises.
Résultat, aucun cours ne sera assuré aujourd'hui.
C'est la première fois qu'on est aussi nombreux, on est à 100% de l'équipe en grève. Honnêtement, ça fait plusieurs années que je suis dans ce collège, on a l'habitude de se mobiliser plus ou moins à 50%. C'est la première fois que c'est à ce point-là. Il y a vraiment un ras-le-bol général sur tout.
Certains enseignants de ce collège font partie du mouvement des stylos rouges qui rejoignent les syndicats sur les revendications salariales et de conditions de travail.
École fermée aujourd'hui en Corse au-dessus de 400 mètres en raison de la neige qui tombe depuis hier soir. L'île est en vigilance orange, neige et verglas jusqu'à la mi-journée. En revanche, Météo France a levé l'alerte avalanche dans 4 départements. département pyrénéen.
Et puis la prison de la santé recrute des bénévoles.
La maison d'arrêt parisienne vient de rouvrir après 4 ans de fermeture pour travaux et il faut donc recréer tout un tissu associatif pour accompagner les détenus et leurs familles sur la voie de la réinsertion. Reportage signé Corinne Audouin.
Katia Roussille est bénévole à la halte Saint-Vincent qui organise l'accueil des familles avant les parloirs. À la santé, avant, ça se passait dans un Algeco sur le trottoir. Maintenant, c'est une salle toute neuve derrière les hauts murs d'enceinte.
On accueille, on offre un café, on parle aux personnes si elles ont envie de parler. C'est de l'écoute, beaucoup de l'écoute. Et puis souvent, elles ne disent pas à l'extérieur que leur mari ou leur fils est en détention. Donc c'est le seul endroit où, pour finir, elles peuvent parler.
Il y a une bonne ambiance.
La halte recrute. Annick est intéressée.
Ça fait des années que je voulais faire quelque chose justement dans ce monde, dans les prisons. Je vais faire un essai.
Pour donner des cours d'informatique, aider à écrire des courriers, accompagner les sortants dans leur démarche, l'implication des citoyens est indispensable, explique la directrice du service d'insertion et de probation de Paris, Anne Lureau.
En fait, l'administration pénitentiaire ne peut rien faire toute seule. On a vraiment besoin de la société civile pour leur permettre de retrouver une place dans la société. C'est vraiment l'affaire de tous.
Stéphane est sorti il y a 3 mois de Fleury-Mérogis. Ses cours par correspondance avec l'association Auxilia lui ont permis de tenir le coup.
Ça vous donne vraiment une force incroyable parce que quand vous recevez un courrier, que vous avez peu de contact avec votre famille, et bien voilà, le courrier, ça met un peu d'humanité qui rentre à l'intérieur de la cellule. Il faut dire la vérité, j'ai vu des suicides à Fleury-Mérogis parce que les gens se sentent complètement isolés. Alors grâce à l'aide de bénévoles, et bien on retrouve un petit peu d'espoir et d'humanité.
Car personne, dit-il, ne peut se reconstruire tout seul.
Enfin, le psychodrame de la cheville de Neymar continue au PSG. Le club parisien s'est bien qualifié hier soir pour les 8e de finale de la Coupe de France en battant Strasbourg 2-0. Mais voilà, Fanny Lechevestrier, Neymar s'est blessé à 3 semaines d'un match capital contre Manchester United en Ligue des Champions.
Dans le camp parisien, personne ne cachait son inquiétude hier soir après avoir vu Neymar quitter le terrain en larmes, direction l'hôpital.
Bien sûr, c'est inquiétant. On a besoin de lui. C'est un très très grand joueur. Non. On croise les doigts, j'espère que ce n'est pas si grave.
Croiser les doigts, nous dit son coéquipier Eric Choupo-Moting, et peut-être aussi toucher du bois, car le communiqué médical émis dans la nuit par le PSG n'invite guère à l'optimisme. La star brésilienne a été touchée exactement au même endroit qu'au printemps dernier, blessure au pied droit qu'il avait tenu éloigné des terrains durant 3 mois. Pas de quoi, cependant, émouvoir l'entraîneur de Strasbourg. Interrogé sur les très nombreux coups reçus hier soir par Neymar, c'est sur l'un d'entre eux qu'il s'est fait mal, Thierry Loret, là à son tour taclé.
C'est pas de la danse classique quand même. C'est un génie, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il y a des moments où quand tu dépasses un peu les bornes, il faut assumer. Quoi. Et le fait d'assumer, quelquefois, c'est de se prendre quelques coups. Je comprends que mes joueurs, à un moment donné, en aient marre de voir quelqu'un qui cherche un peu à les narguer, à les chambrer. Voilà.
Cela fait tout de même cher payer. Le PSG indique qu'aujourd'hui, toutes les options thérapeutiques sont envisagées. En clair, une nouvelle opération n'est pas exclue. Et Neymar pourrait, comme l'an passé, manquer le match le plus important de la saison parisienne.
Et c'est déjà sur cette blessure qui avait privé le Parisien du 8e de finale. Retour de la Ligue des Champions, c'était face au Real Madrid.
Merci Agnès Soubiran. Premier point, route, circulation. Bonjour Caroline Pommès.
Bonjour.
Accident Caroline à Toulouse.
Oui, accident entre un poids lourd et une voiture sur l'A64 en arrivant à Toulouse par le sud. Un bouchon de 3 km s'est formé. Soyez vigilants surtout au verglas ce matin. Les températures sont négatives sur une majeure partie de la France. Il y a encore quelques flocons, notamment sur l'autoroute A20 dans la Haute-Vienne.